Bien, chers enfants, chers parents, chers paroissiens, je vois que je suis enregistré, alors je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises. Quand je regarde notre assemblée, je me réjouis, je vous vois, vous trois, qui faites votre étape de baptême aujourd'hui. Je vois Armand qui va être accueilli dans l'EAP, je vois l'action de grâce aussi qui peut être celle de Dominique qui arrive au terme de son mandat aussi en EAP. Et voilà, nous faisons l'expérience d'être ensemble l'Église. L'Église, c'est assez simple, c'est quelques personnes, des disciples du Christ qui un jour ont été touchés par lui et se sont mis à l'écouter, à l'aimer, à le suivre. Et le simple fait de vivre ça, ça nous transforme les uns les autres en frères. Si on est disciple du Christ, si le Christ est notre frère aîné, dit-on, eh bien nous sommes tous frères, peu importe l'âge, le statut, les responsabilités. Nous avons tous fait cette expérience de rencontrer Jésus le Christ. Lui, il est le chemin, la vérité, la vie. Lui, il a les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie en plénitude. C'est la vie où on ne peut pas être plus heureux, plus en paix, plus fort. C'est la vie profonde dans laquelle il nous fait vivre, pas à moitié. Cette aventure-là que nous partageons avec le Christ en frère, eh bien c'est ça le baptême. Il faut être très fier de son baptême. Il faut faire mémoire de son baptême, se souvenir de la date à laquelle nous avons été baptisés, même si c'est dans les années 30. Je dis ça parce que je pensais en venant à une petite anecdote. Il y a quelques années, il y avait deux enfants comme vous qui étaient dans un groupe de cathé et ils étaient dans la cour de l'école. Et ils parlaient du cathé, donc ils parlaient du temps fort qu'ils avaient vécu. Et une troisième enfant arrive, une fille, et qui leur dit « Mais de quoi vous parlez ? De quoi vous parlez ?» parce que ça avait l'air d'être intéressant. Et alors ils lui disent « Mais... un peu gêné, on parle du cathé, mais toi tu viens pas au cathé, et puis de toute façon, tu n'es même pas chrétienne. » Et la petite fille s'est arrêtée, elle les a regardées un peu surprise, et elle leur a dit « Mais moi je sais pas si je suis chrétienne, je suis ardéchoise. » Vous voyez comme quoi l'identité, alors pour un ardéchoise c'est particulier sûrement, mais pour les drômois aussi, mais voilà, ce trésor que nous portons au fond de nous d'être baptisés. Eh bien, en marchant vers Pâques, avec vous les enfants, nous retrouvons la joie de cette relation au Christ. Et ça brise en nous la solitude. Retrouver une relation vivante à Jésus, ça nous rappelle qu'il n'y a pas de solitude dans notre vie. Avec le Christ, nous ne sommes jamais seuls. Des fois, il y a des gens qui ont peur de s'arrêter, de laisser remonter en eux, de faire silence, etc., de se tenir calme, de faire cesser le bruit des, je sais pas, des écrans, de la musique, etc. On n'aime pas bien des fois le silence, il y a des gens que ça indispose. Mais nous, chrétiens, nous savons que quand nous nous tenons là, en silence, eh bien, le Seigneur est avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Et c'est pas si facile d'ailleurs, je pense ça, parce que nous vivons une époque, et j'en suis témoin, et vous aussi sûrement, où il n'y a pas un jour où les gens nous confient des sentiments très contradictoires en fait. On est heureux de la vie qui est en nous, mais en même temps, on peut éprouver de la solitude ou de la peur même devant les événements qui surgissent dans nos vies ou dans la vie de nos pays, ou quand il y a la guerre par exemple. J'écoutais une dame à la sortie de la messe dimanche dernier qui me disait « Oh là là, mais vous savez mon père, en fait on vient d'acheter une maison. Mais on se demande si on a bien fait. Parce qu'avec ce qui se passe, avec ces crises que nous traversons tout le temps, on ne sait pas où on va. » Et alors j'ai pensé à une autre histoire et j'ai envie de vous la raconter cette histoire parce que je la médite beaucoup en ce moment. C'est une histoire qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors vous n'étiez pas né, mais il y a eu une grande guerre au milieu du siècle dernier, une guerre de tous les pays. Et c'était en Allemagne, il y avait un pasteur protestant qui s'appelait Dietrich Bonhoeffer. Et ce pasteur, il a tout fait pour essayer de lutter contre les nazis, contre l'oppression de l'armée allemande. Et c'est un homme très puissant en parole, en conviction. Et un jour, cet homme est arrêté à cause de ça, parce qu'il s'opposait au pouvoir des nazis. Et c'est tragique pour lui parce que cet homme qui avait été seul assez longtemps, il avait rencontré une jeune femme qui s'appelait Maria. Il était tombé amoureux de cette jeune femme et il pensait à se marier avec elle. À l'été 43 et voilà que tout s'effondre pour lui. Plus de projet, plus rien, la prison, l'impossibilité de la voir et qu'espérer. Ça nous renvoie à ces situations que nous traversons des fois. Voilà, on fait des projets et puis on a l'impression que ça se suspend. Et il écrit à sa fiancée, Maria, je vous lis ce qu'il écrit à celle qu'il aime. Et je suis toujours touché par la profondeur de ce qu'il dit. Il lui dit, « Chère Maria, dans le livre du prophète Jérémie, c'est dans la Bible, il est dit que dans la plus grande détresse, eh bien, on doit acheter des maisons et des champs dans ce pays en signe de confiance en l'avenir. Pour cela, il faut que Dieu nous donne chaque jour la foi. Je ne parle pas de la foi qui fuit le monde, mais de la foi qui tient bon dans le monde, qui aime la terre malgré toutes les détresses qu'elle nous apporte et lui reste fidèle. » Et il poursuit, il dit « Notre couple doit être un oui à la création de Dieu. Il doit fortifier en nous le courage de créer quelque chose et d'œuvrer sur la terre. Je crains, dit-il, que les chrétiens qui n'osent avoir qu'un pied sur la terre n'aient aussi qu'un pied au ciel. » Eh bien, vous voyez cette capacité d'accueillir les épreuves les plus tragiques qui soient en se disant « Il faut que je fasse ce choix de la confiance. Je demande à Dieu de me donner cette grâce de la confiance. » Eh bien, c'est la foi, ça. Et le baptême nous donne cette grâce. Je voulais vous partager cette histoire, elle m'habite, mais je pense que c'est à cette hauteur que nous devons traverser les événements, les crises qui secouent nos vies, nos sociétés. Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent aussi que nous ne sommes pas seuls et c'est Dieu lui-même qui nous fortifie. Et alors, vous avez entendu un passage d'Abraham. C'est un peu bizarre, parce qu'il y a une sorte d'alliance, on coupe des animaux en deux, et puis Dieu passe au milieu. Enfin, Dieu est là, et il parle à Abraham. Eh bien, il fortifie Abraham en lui faisant une promesse. Et puis, dans l'Évangile, vous avez entendu ce récit, on est sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean sont avec Jésus, et puis, tout à coup, Jésus apparaît dans une grande lumière, et il parle avec Élie et Moïse. Voilà, c'est un... Il est avec Pierre, Jacques et Jean, les futurs responsables de l'Église, et il les fortifie à ce moment-là. Je voudrais revenir sur ces deux choses. D'abord que Dieu nous rend fort parce qu'il nous fait une promesse. Quand on fait une promesse à quelqu'un, c'est très important ça. Parce que la personne en face, elle peut entendre « je serai avec toi, tu peux compter sur moi ». Et alors du coup, ça nous rend fort ça. Mais avec Dieu, c'est pareil. Dieu nous dit qu'il sera fidèle, qu'il sera toujours là. Eh bien, les jeunes, dans le petit mot que vous avez formulé tout à l'heure, on a entendu que vous aviez découvert des signes de la présence de Dieu dans vos vies. Eh bien, nous les vieux, nous devons aussi réapprendre à voir la présence de Dieu dans nos vies, dans les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Nous sommes comme un bain révélateur. Vous savez, avant les photos, avant le numérique, les photos, on les mettait dans un bain et tout à coup, l'image apparaissait progressivement. Nous sommes comme un bain révélateur de la présence de Dieu. Et nous qui sommes baptisés, il nous revient d'annoncer cette bonne nouvelle que Dieu n'est pas loin. C'est le cœur du travail pastoral. Dans la fraternité, dans la diaconie, dans les célébrations, nous annonçons, nous vivons, nous éprouvons que Dieu n'est pas loin. C'est très important, cette promesse de Dieu, qu'il sera toujours avec nous. Ça veut dire que le ciel n'est pas fermé au-dessus de nous et que nous pouvons découvrir le vrai visage de Dieu qui est un Père. Et Dieu, nous le découvrons aussi, il fortifie Pierre, Jacques et Jean sur la montagne en leur montrant qui il est vraiment. Eh bien, cette transfiguration, elle vient après que Jésus ait demandé à ses disciples, il leur a demandé, mais qui suis-je pour vous ? Un peu comme on fait aussi tout à l'heure Esteban, Prunelia et Julien. Qui suis-je pour vous ? Et c'est difficile de mettre des mots sur sa foi. Alors Jésus se donne à voir, à être connu en profondeur. Elle vient aussi, cette scène de la transfiguration, après l'annonce de Jésus, je serai arrêté, je serai crucifié, je mourrai, et au troisième jour, je ressusciterai. C'est difficile aussi d'accueillir cette réalité pour les disciples, cette réalité du passage à travers la mort pour Jésus. C'est difficile parce que nous-mêmes, nous sommes travaillés par la mort, et la mort, elle se manifeste tous les jours. Elle se manifeste par la violence, par la haine, par les guerres, par les tensions, par la peur, par la division. C'est tout ce qui nous détruit un peu tous les jours, dans le monde, dans l'Église ou dans nos vies personnelles. Alors Jésus nous rassemble, comme Pierre, Jacques et Jean, comme il nous rassemble ce soir, pour nous faire comprendre qu'il y a un autre chemin. C'est pour ça que nous avons besoin de la prière des frères de la communauté pour nous aider à lutter contre la mort et le péché. C'est pour ça qu'on a fait cette prière et cette imposition de la main tout à l'heure. La scène de la transfiguration, elle nous apprend une chose simple, c'est que Jésus nous fait entrer dans une vraie communion avec lui. Nous pouvons entrer dans le mystère de Dieu, dans la nuée, comme dit l'Évangile. Nous entrons dans la communion avec Jésus, mais aussi avec Moïse et Élie. Un grand prophète, le plus grand des prophètes, Élie. Et Moïse, voilà, celui qui a reçu les tables de la loi au désert et qui a amené le peuple libéré d'Égypte. Eh bien, retenez cela, qu'avec Jésus, nous entrons dans une vraie communion profonde. Et nous entrons dans une communion où il y a plein de gens. Parce qu'on pourrait dire, il y a tous ces grands personnages de la Bible. Et en fait, ce sont comme nos oncles et nos tantes, ils font partie de nos familles. Et de la même manière que nous ressentons qu'il y a une communion aussi en Jésus avec tous ceux qui nous ont précédés ou qui nous ont quittés, tous les défunts qui nous manquent, dont nous chérissons la mémoire, eh bien, ils sont déjà dans la maison du Père, mais avec Jésus, autour de Jésus, nous sommes en communion avec eux. Élie et Moïse, ils ont un message précisément sur la mort qui nous travaille. Ils témoignent qu'avec Jésus, la mort n'a pas le dernier mot. Tout ce qui nous tue chaque jour n'aura pas le dernier mot. C'est très important de croire cela. Ils le savent, vous savez, parce que Élie, il y a une scène incroyable. En fait, Élie ne meurt pas. Il monte au ciel sur un grand char de feu. Il disparaît, monte directement au ciel. On ne connaît pas le passage par la tombe. Et Moïse, c'est un peu bizarre aussi parce qu'on n'a jamais su où était sa tombe. Comme si on voulait nous dire que ce Moïse qui parlait à Dieu comme un ami parle à son ami et qu'il le regardait face à face, eh bien que ce dialogue, au-delà de la mort, se continue aussi. Voilà, c'est très fort ça. Élie et Moïse, ils nous apprennent ça. De ce que nous pouvons vivre avec Jésus. Sur la montagne de la Transfiguration, enfin, je finis par là, il est dit quelque chose de l'Église que nous sommes. Il nous est dit que l'Église prend sa source un peu sur cette montagne et que nous sommes, comme Pierre, Jacques et Jean, une petite communauté appelée à vivre en Église, à servir, et que nous sommes d'abord une communauté de personnes qui écoutent la parole de Dieu. « Celui-ci est mon fils, écoutez-le », dit la voix du Père. Voilà, c'est très important ça. Tout commence avec cette parole de Dieu. Quelquefois, on a du mal à croire qu'on peut changer. Plus on vieillit, d'ailleurs, plus on se dit « quel levier je vais actionner pour réformer l'homme ou la femme que je suis. » On a du mal à croire que nous puissions changer nous-mêmes, l'Église aussi. J'ai rencontré le pape il y a 15 jours à Rome, et alors il dit on a l'impression que l'Église des fois elle est lente. Et des fois c'est vrai, on aimerait que l'Église change, qu'elle se réforme, etc. Mais il dit le pape, j'aime à croire que l'Église est lente parce qu'elle marche aussi au rythme de ceux qui sont les plus fragiles, les plus petits et avec qui on veut être frère. Et donc elle est lente, l'Église, de cette fraternité qui marche au pas du moins rapide. On a du mal à croire, je vous dis, donc qu'on puisse changer. Mais la parole de Dieu peut nous faire changer. Si vous écoutez les Philippiens, vous entendrez que nos pauvres corps peuvent changer. Moi, j'ai rencontré un détenu, un homme qui est en prison, à la prison de Valence. Ça fait 40 ans qu'il est à la prison. Ça fait 40 ans qu'il est enfermé. Et cet homme, son défi, c'est de rester un homme. C'est de ne pas sombrer dans la folie. Et son défi, c'est de ne pas laisser la colère envahir sa vie. Eh bien, 4 fois par jour, vous savez ce qu'il fait, cet homme ? 4 fois par jour, il ouvre sa Bible et il prie le psaume numéro 4. Il le connaît par cœur. Et il me disait, moi c'est ça qui fait que je reste humain. Eh bien, nous aussi, nous avons à vivre de cette parole qui éclaire notre vie. Et puis enfin, la dernière chose, je voudrais vous parler des tentes. Pierre, Jacques et Jean, ils disent, ça serait bien que ça dure un peu ce moment où on est sur la montagne avec Jésus, dans la gloire, avec Élie et Moïse. On va faire des tentes et on va rester là. Eh bien, l'Église, ce n'est pas, à un moment donné, il ne faut pas rester là. On peut être bien avec Jésus, on peut prier, on peut être vraiment en sa présence et être heureux de ça. Mais ce n'est pas une fin en soi. Bien sûr, il faut demeurer dans sa parole, mais il n'est pas bon que nos tentes soient dressées trop longtemps. Parce qu'il faut partir, il ne faut pas rester sur place. Il y a un envoi, il y a un aller-retour peut-être. Il faut sortir et puis revenir écouter la parole de Dieu. Il faut vivre sa foi dans la simplicité des jours, quand on n'est plus sur la montagne, quand il n'y a plus la nuée. Et comment on fait alors ? Bien, on est un peu comme les pingouins sur la banquise. Un pingouin sur la banquise, il a froid. Mais s'il se met à plusieurs, il peut lutter contre le froid. Eh bien, nous sommes des baptisés chrétiens qui vivons dans le monde, et le monde est froid quelquefois. Il faut pouvoir se rassembler, se serrer un peu, écouter la parole, et il faut toujours faire ce mouvement d'aller et venir. C'est très important d'aller vers les autres, d'accueillir, de recueillir ce qu'ils vivent en profondeur. Voilà, c'est la mission, ça. On confie des missions dans l'Église, mais la première des missions, c'est d'écouter la parole du Seigneur et d'aller vers son frère, et pas simplement son frère, vers tout homme, pour l'écouter, pour apprendre en lui ce qui est du mystère de Dieu. Il faut ensuite apprendre Dieu aussi dans les rencontres de la paroisse, de la communauté, avec les gens, tous les gens qui nous sont donnés comme frères. C'est dans ce dialogue que nous grandissons dans la foi. Eh bien, pour faire ça, pendant ce temps de carême, je finis par là, c'est une invitation, il faut apprendre à ralentir le temps. Et on peut être occupé à plein de choses. On peut enchaîner les journées en faisant beaucoup de choses, d'activités, etc. Mais il y a un moment donné, il faut ralentir le temps parce que ça nous permet de prendre soin des liens que nous avons. Eh bien, notre Église, elle est dans ce temps de carême pour ralentir le temps et pour prendre soin des liens avec Jésus et avec les autres. Vous savez que la paix autour de nous, elle grandira si nos cœurs ne sont pas brisés. Alors dans cette Eucharistie, nous allons demander que la paix vienne dans nos cœurs pour que nous puissions en témoigner et en vivre autour de nous. Amen.
justice.